Voilà, c'était quelques notes de Bach et c'est pour accueillir notre invitée qui est au téléphone, Maëlys Bouffartigues. Vous m'entendez?
Oui,
Bonjour.
Absolument, je vous entends, bonjour.
Bonjour, donc vous êtes comédienne, metteur en scène et directrice de la compagnie Monsieur Madame. Et pour la seconde année en Ariège, cette année sur Mazazil, vous proposez des rencontres et cette année c'est intitulé Histoire de se rencontrer et c'est sous le parrainage d'Edgar Morin.
Oui.
C'est bien ça. Et donc, comme toujours, ce que vous faites depuis, ce que vous défendez depuis longtemps, si je puis dire, c'est que, puisque bon, vous êtes comédienne et le théâtre est votre, comment dire, est votre passion, mais vous alliez toujours des... Même quand vous aviez présenté au Ring il y a quelques années à Toulouse le travail autour de Robert Antelme, il y a toujours des chercheurs, des universitaires et puis du théâtre. Et là, durant ces journées, parce que ça dure du 12 au 16, donc c'est sur 4 jours au Mazazil.
5 jours.
5 jours, oui, pardon. Je suis vraiment fâchée avec les chiffres. Il faut m'excuser. D'accord. Donc c'est toujours ces... comment dire, ça concerne la défense des droits de l'homme qui sont malheureusement souvent maltraités, avec comme ça plusieurs focus, notamment sur l'Afrique, tout ce qui a trait aussi à la colonisation et aussi aux répercussions actuelles de la colonisation, ensuite aussi l'époque donc, de la Seconde Guerre mondiale, l'époque aussi des goulags, aussi après il y a un versant concernant les femmes plus spécialement, avec voilà, et puis aussi ce qui est, puisqu'il y a notamment une conférence qui est intitulée « Est-ce qu'un éco est un génocide », puisque voilà, il y a des propositions artistiques et puis beaucoup de rencontres avec des spécialistes.
Absolument. En fait, c'est vraiment autour de l'histoire. On va se questionner sur la transmission et la narration de l'histoire, et plus particulièrement sur l'étude et la compréhension des crimes contre l'humanité. Tout ce que vous avez cité, le colonialisme, c'est en cours d'être reconnu comme tel, comme des crimes contre l'humanité. C'est pas encore tout à fait le fait n'est pas encore là, mais vraiment la justice avance là-dessus et dans le monde entier, bien entendu. Ensuite, les femmes, oui, les femmes en tout cas ne sont pas considérées comme une espèce humaine à part entière. Donc je voudrais rassurer ces messieurs, ils font partie de la même espèce que nous, hein, voilà. Et ensuite, on est là ensemble pour se questionner, pour se questionner sur les parties sombres de l'espèce humaine. Donc en effet, l'espèce humaine, vous l'avez cité tout à l'heure, de Robert Antelme sera à nouveau présentée. Le parrainage est Edgar Morin, ce n'est pas un hasard.
J'imagine.
L'histoire toute sa vie lui a donné raison, alors qu'il n'avait pas du tout des discours consensuels, des discours qui étaient bien accueillis du tout à chaque époque. Et à chaque époque, il a pris le risque de parler au nom de la justice. Et l'histoire lui a toujours donné raison. Donc, à l'instar de cet esprit, de ce grand monsieur qui a 101 ans, que l'on nomme d'ailleurs le plus jeune sociologue du monde, à 101 ans et demi, n'est-ce pas? C'est quand même quelque chose. C'est la personne la plus traduite dans le monde.
D'accord.
C'est en 38 langues. Donc, c'est un grand, grand pont. C'est tellement simple.
Un sage.
Pardon?
C'est un sage.
C'est un sage. Et qui a... Sa parole est encore comme
importante,
une manne.
Oui.
Moi, je le prends comme une manne. Hein, ça nous tient debout. Eh bien, tous les gens sont à l'instar de ce personnage. C'est-à-dire qu'il y a des pionniers là-dedans, même s'ils sont jeunes. Je les nomme des pionniers qui ont le courage de ne pas avoir le discours consensuel et qui doit être dit le bien pensant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contestataires. Ça, ils ont toujours une attitude d'historien, de chercheurs, et donc ils font des enquêtes.
Bien sûr.
Dont ce sont des personnes qui peuvent partir sur une idée bien précise, subjective.
Une hypothèse.
Et au bout de leur recherche, en fait, ils changent d'opinion parce que ce qu'ils ont trouvé dans les archives, ce qu'ils ont dépoussiéré et exhumé, ça n'a plus rien à voir avec leur opinion de début. Donc, ils sont proches de la véracité de l'histoire. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a un énorme problème. Il y a une falsification de l'histoire de tous les côtés. Qui dit vrai, finalement? Eh bien, moi, je m'en remets à ceux qui cherchent, c'est leur métier, qui fouillent, qui vont chercher les archives et qui prouvent. Voilà. Donc, par exemple, par rapport à la Shoah, on sait bien qu'il y a eu un révisionnisme qui existe d'ailleurs encore, mais voilà, il y a des papiers, il y a des archives, il y a des jugements qui ont été faits, il y a un travail sérieux. Eh bien, pour toute autre chose, c'est la même chose. Donc, battons-nous pour la véracité de l'histoire, étonnons-nous, qu'on soit étonnés de nous-mêmes, de se dire, mais bon, à quel point je m'étais trompée, j'étais dans la croyance, mais la vérité, c'est autre chose. Ah ben mince, alors bon, je change d'opinion. Voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de mettre en exergue et que l'on échange, que l'on discute et que l'on débatte avant de se battre. Parce qu'à mon avis, on est vraiment dans une telle confusion. Edgar Morin parle de la crise d'esprit, d'une crise de l'esprit et d'une crise de l'humanisme. Et en effet, nous y sommes en plein, dans une grande confusion. Retrouvons-nous, reparlons-nous, redébattons, re-argumentons. Voilà, et peut-être qu'on partira en ayant toujours la même opinion, mais au moins on se sera fortifié dans nos arguments.
Oui, il y aura
voilà.
eu des échanges. Et puisque bon, l'an passé, vous aviez organisé ce même type de manifestation, c'était en Ariège, mais pas dans la même commune. Vous pouvez me rappeler où c'était l'an passé ?
Alors l'an passé, c'était la première édition s'est déroulée au Carlabaille.
Oui, voilà.
Puis les circonstances ont fait que finalement, cette année, c'est au Mas d'Agile. C'est à 15 kilomètres. Hein,
oui, non, mais ce que je voulais savoir, c'était... quel enseignement avez-vous de l'an passé, de ce qui s'est passé
Alors,
l'année
passé,
dernière ?
Ça a été une réussite, pas forcément en termes de fréquentation, parce que évidemment on était en plein Covid.
Oui.
Et il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas du tout envie de porter des masques et tout ça. Et comme moi, je demandais à ce qu'on porte des masques. En toute conscience, hein, d'ailleurs, on ne les a pas toujours mis, puisqu'on était très distanciés les uns des autres, etc. Mais ça a freiné beaucoup de gens. Puis bon, voilà, il y a eu une forme de dépression un petit peu dans la population. C'était compliqué l'an dernier. Mais la réussite a été, les spectateurs qui sont venus m'ont énormément motivée pour remettre ça cette année sur les mêmes thématiques. Parce qu'ils pensent que c'est très important. Et quasiment la même programmation artistique, parce que tout ce qu'ils ont vu les ont passionnés. Et en fait, finalement, la phrase, la même phrase dans chaque bouche, alors qu'ils ne s'étaient pas concertés, était « ça nous fait un bien fou ». Alors, faut pas avoir peur des choses qui paraissent sombres, tristes, dures, parce qu'on vit une vie assez dure au quotidien, on n'a pas envie de se taper des trucs sur les crimes contre l'humanité. Mais ça, c'est une fausse idée.
Et oui,
ça,
parce
ça
qu'il faut savoir ce qui s'est passé. Et
voilà.
C'est quand même, ne serait-ce que pour rendre justice, ne serait-ce que pour ça, et pour éviter
de refaire les mêmes choses éternellement, pour éviter que l'histoire se bégaye, puis ça nous fortifie, ça nous met en joie. Parce qu'on parle de l'humanité. On décortique cette fameuse espèce humaine dont on fait tous partie. Et il n'y a pas des espèces humaines, comme dit Edgar Morin, il y a une espèce humaine. Nous sommes victimes et bourreaux, nous avons tout ce potentiel en nous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être bourreau ? Moi, je me dis, ne pas reproduire ce que font les bourreaux parce qu'on est fatigué et qu'on veut les décaniller depuis des siècles. Certains oppressent les petites gens, comme on dit, depuis des siècles. Alors, je comprends, on a des montées de haine. Non, surtout pas ne pas devenir comme eux. Parce que c'est là où ils gagnent.
Et oui, bien sûr.
Donc, voilà, donc c'est toutes ces réflexions, et puis par plusieurs chemins, le chemin de l'intellectuel qui réfléchit, le chemin de la danseuse qui parle avec ses gestes, le chemin du théâtre qui a des mots, mais des mots artistiques et scéniques, voilà, la chorale, il y aura une chorale qui est extrêmement radicale, qui s'appelle les boulettes canons. Alors moi déjà, je trouve ça le titre extraordinaire, les boulettes canons. Il n'y a pas une personne cisgenre dans leur chorale. Bon, elles sont radicales avec tout ce qui se passe par rapport au genre. On peut en discuter, on peut en débattre. Je suis sûre qu'on n'a pas du tout les mêmes opinions les uns que les autres, les uns et les autres. Mais on est là pour argumenter, pour se fortifier. Edgar Morin va peut-être faire une vision en direct. Ça dépend de son état d'énergie.
Bien sûr.
Parce que quand même, à 101 ans et demi, j'imagine que tout au long de la journée, ce sont les montagnes russes, comme on dit. Mais en revanche, il a déjà préenregistré quelques phrases qui sont essentielles, fondamentales, que l'on pourra entendre, ça dure quelques secondes, mais c'est fondamental. Donc, il est là avec nous. Il y aura peut-être aussi, nous avons comme partenaire Mediapart.
Mediapart, oui.
Oui, donc le premier soir, le mercredi soir, on commence par...
Un film.
Le film Mediacrash, que Mediapart... enfin, c'est Jour de Fête qui a produit, mais c'est Mediapart et... je me souviens plus comment... bon, bref. Et donc, c'est un ciné-débat, en fait. Hein. Il y aura Amélie Poinceau, journaliste à Mediapart, mais qui a été journaliste dans plusieurs journaux avant, va pouvoir un petit peu... On va pouvoir un petit peu débattre sur la concentration des médias, qui me paraît très, très inquiétante.
Ah, mais ça, c'est un gros problème, oui, en France.
C'est plus qu'un problème, c'est un danger. Et on, à notre insu, comme le dit Edgar Morin, nous sommes dans un somnambulisme, comme ça. Nous sommes dans une léthargie. Donc, son dernier livre, qui s'appelle Réveillons-nous,
oui, c'est
que d'ailleurs,
vraiment...
tous les artistes du festival vont le mettre en bouche.
Oui.
Gallimard nous a donné, et de Noël, ce sont les éditeurs, nous ont donné accord
l'autorisation,
pour qu'on mette
oui.
en bouche cette lecture publiquement. Voilà, pour entendre, oui, les mots de ce sage.
Donc, ce sont les artistes qui diront les mots d'Edgar Morin. Et donc, ce
en
sera
tout cas,
là...
lui, il a des mots propres, voilà, oui. que l'on a préenregistrés. Et ensuite, le samedi... Oh là là, je me souviens plus quand c'est. Le samedi, je crois... Oh, maintenant,
Je l'ai noté, moi, sur mes papiers, alors il faut juste que je les retrouve.
Non, je l'ai... Oui, c'est le samedi à 19h, hein. Il y a cette lecture. Donc j'ai mis théâtre, lecture, danse, slam, c'est
oui.
peut-être maintenant peut-être un petit peu désuet par rapport au programme, je l'avais prévu comme ça.
Oui, c'était écrit
comme ça.
C'est
un peu compliqué
ça,
par rapport au droit d'auteur et tout ça, mais en tout cas il y aura une bonne lecture de ce texte. Et surtout, parce qu'il faut l'entendre, ce jeune homme de 101 ans et demi qui nous dit des choses et qui parle aux jeunes, qui parle à la jeunesse et à tout âge d'ailleurs, et qui nous donne envie de nous réveiller. Hein. Réveillons-nous, c'est le titre.
C'est le titre. De son dernier livre, oui.
Voilà, c'est son tout dernier livre, à l'instar un petit peu de Indignez-vous, qu'il avait écrit aux côtés de M. Hessel.
Oui,
donc, c'est des petits coups de fouet, là, il nous donne des petits coups, allez, il faut y aller maintenant, parce que l'urgence climatique, on ne peut plus dormir, hein, je pense. Il y a d'autres urgences, c'est fini. Là, le somnambulisme et la somnolence, je pense que maintenant, voilà, Edgar nous dit stop, hein, ou faudrait se réveiller, quoi.
Oui, parce que c'est tout un ensemble. J'aimerais aussi, puisque comme tout à l'heure vous avez parlé de la danse, il y a notamment cette danseuse qui danse, mais en prenant la thématique du viol, et je suppose que c'est quelque chose qui lui est arrivé personnellement.
Oui, voilà, elle narre. Son histoire, elle transcende.
C'est de, une
elle
forme de résilience,
résilience
oui.
d'ailleurs, qu'on nomme la résilience de Cyrulnik, hein, dont on parle, Boris Cyrulnik. Donc, ça la maintient debout, et c'est pour toutes les femmes.
Bien sûr, oui.
C'est pour libérer la parole des femmes, le corps des femmes, parce que ça passe par le corps.
Et oui, c'est un corps meurtri.
À aucun moment, on ne se sent désespéré, on pleure d'une façon, non, ça nous édifie. C'est un spectacle. Pour ceux qui aiment la danse, et même ceux qui n'aiment pas la danse, ils vont l'aimer, avec Agnès Mayoukou. C'est une immense chorégraphe. À mes yeux, c'est vraiment une des plus grandes, mais qui malheureusement n'a pas sa place assez grande dans le milieu artistique, alors qu'elle mérite une place immense. C'est une femme qui se bat pour les femmes depuis tout le temps. C'est une grande percussionniste qui a travaillé avec que des gars, que des garçons autour. C'est une femme qui a fait travailler dans son pays, le Congo-Brazzaville, qui est allée chercher les dames qui vendent les brochettes dans la rue, qui est allée chercher tout le monde pour danser et pour vraiment s'affirmer en tant que femme. Non, c'est une femme remarquable. Et ça se sent, c'est une énergie. En fait, elle nous donne énormément d'énergie. Quand on sort de ce spectacle, on est en forme. Donc, et pourtant, ça traite du viol.
Mais oui.
Voilà. Donc, c'est tout ça. Faut pas avoir peur de ces thématiques. Ma grand-mère, elle disait, un problème, c'est simple. Tu prends le taureau par les cornes. Voilà. C'est bête à dire, c'est des choses populaires, hein. Mais c'est ça.
Oui.
À un moment donné, bon, au lieu de fuir et de te dire non, c'est trop pour moi,
et
ça
d'étouffer,
va me faire mal,
oui, bien sûr,
on
oui.
prend le taureau par les cornes et on se regarde face à face et on y va. Voilà. Ça, c'est un petit peu moi, c'est aussi ma personnalité.
Oui, oui, je. Voilà. Il y a aussi, vous avez intitulé, enfin, dans le programme Théâtre-Danse, adapté de, du livre
Génocidé. Alors, ça aussi,
voilà,
c'est un
oui.
petit peu daté.
Dans
parce
ces,
qu'il y a eu un souci.
Savoir au Rwanda. Ah, ça n'y est plus, c'est les plus présentés.
Non, non, il y aura Génocidé. Hein.
D'accord.
Ça, vraiment, il y aura le Génocidé de Révérien Rourangois. J'espère que ce qui est nouveau, qui n'est pas marqué dans le programme, peut-être que Révérien Rourangois sera parmi nous.
D'accord.
Mais en revanche, je ne sais pas si le duo lecture-danse va s'opérer parce qu'il y a eu tout simplement, voilà, des couacs pour le travailler avant.
D'accord.
Mais il y aura une lecture et à la fois un texte dit théâtre par Hélène Sirven, qui est vraiment une comédienne aussi hors pair, qui avait déjà fait un premier essai l'an passé. Et cette année, c'est un deuxième essai. C'est pour ça que, au niveau des tarifs, ça, c'est de l'ordre de la participation libre. Il y a des journées entières à 10 euros le week-end. Voilà. Donc, quand on donne 10 euros, on peut tout voir. Quand on donne 18 euros, c'est tarif plein. On peut tout voir un jour par week-end, le dimanche et le samedi, c'est chaque fois 10 euros. Voilà. Donc, elle, c'est un texte, alors par contre, très saisissant, très violent, parce qu'on assiste au massacre de sa famille, 43 personnes qui se font massacrer. Mais, encore une fois, bien, on ressort pas abattu du tout.
Au contraire, combative
au contraire.
Et voilà.
Au contraire, en empathie avec les autres, et puis en empathie finalement avec soi-même, parce que ça peut nous arriver finalement à tout moment.
Bien sûr, oui. Personne n'est à l'abri de... Oui.
Voilà.
Il y a aussi, j'aimerais que vous parliez de carte d'identité aussi, du livre de Diogène Natrindois.
Voilà.
Alors, qui est un dramaturge rwandais qui est né au Burundi, c'est ça hein.
Voilà, un acteur rwandais, c'est un très grand comique dans son pays, qui est très connu en tant que comique, il nous fait mourir de rire, mais quand je dis mourir de rire, on frôle la mort avec lui, hein, tellement qu'on rigole. Et là, il avait écrit en 2006, donc c'est pas si longtemps après le génocide qui s'est passé au Rwanda,
le génocide
des Tutsis. 12 ans après, hein, pensez bien qu'il y a encore des gens en plein trauma, en plein traumatisme. Et il a écrit cette pièce de théâtre, c'est une personne qui a un parcours tout à fait surprenant. Le public était quand même plié de rire, voilà, des gens machetés, des gens qui manquaient des bras, des tout un tas de rescapés qui sont allés le voir et qui ont ri, pleuré, et voilà quoi, on exulte quelque part quelque chose. Donc c'est vraiment un médecin aussi, ce monsieur Diogène Tarindois, et un enseignant. Il nous enseigne qu'est-ce que c'est que ce génocide. Donc dans une carte d'identité, pour moi, c'est vraiment une fresque historique mêlée à son histoire personnelle. Et cette fresque historique nous touche du doigt la genèse d'un génocide. La genèse de ce génocide. Donc il est burundais à l'origine, c'est-à-dire, enfin, il est rwandais,
mais il est né au
Burundi. Ils sont exilés dans les années 60 parce que déjà.
Il y avait des soucis,
Oui, il y avait des soucis parce que nous le savons tous, un génocide n'est pas spontané. C'est pas en 94, ping.
Ça ne pousse pas comme ça,
Ça se prépare, des fois des siècles avant. Voilà. Voilà, en gros, donc Diogène, bon, oui, je recommande à tout le monde de venir voir Diogène Tarindois. D'abord, c'est quelqu'un d'internationalement connu, très modeste. Mais bon, il est appelé partout. C'est vraiment un monsieur qui... Très simple, hein, à l'instar encore d'Edgar Morin, quelqu'un de très simple qui parle à l'humain, à tout le monde, à tout le monde et ses amis. Hein, y a pas, voilà, on est ensemble. Hein. Moi, je ne fais pas de hiérarchie. Celui-là, il a fait des études, celui-là, il ne l'a pas fait, etc. Pas du tout. Hein. On est tous ensemble, tous égaux. Hein. On va chercher l'égalité. Par contre, on a des savoirs différents, on va les échanger. Voilà.
D'accord. Il y a aussi, parce que vous proposez tellement de choses, que alors je veux essayer d'être le plus complète possible.
Non, mais il y a beaucoup de choses, excusez-moi de vous interrompre, mais tout ça, c'est le même fil.
C'est
le même fil, et c'est aussi fait exprès.
Oui.
Parce que de tous les côtés qu'on prend, le point central, c'est l'humanité.
Oui, et ce que les humains sont capables de faire
Le meilleur
dans le pire comme le meilleur. Oui.
Voilà, nous sommes faits de victimes et de bourreaux, nous sommes faits de haine et d'amour. À nous d'avoir la lucidité de choisir ce qu'il faut au moment où il faut.
Et de savoir entendre, de savoir regarder, de voilà, de pas se fermer les yeux, de pas fermer les oreilles et.
Et surtout ne pas se laisser envahir par des haines. À l'instar de ceux qui font subir les qui font subir les pires atrocités dans le monde, on peut dire les grands de ce monde, hein, qui nous, qui finalement multinationales, les grands marchands d'armes, etc. Mais au bout d'un moment, on peut pas, on peut pas fabriquer de la haine comme ils fabriquent de la haine. À nous d'être plus forts, plus intelligents.
Oui, voilà. Ben, c'est ça l'astuce. Je voudrais aussi que vous évoquiez, puisque si c'est sous forme de, mais toujours pareil, il y a les deux versants, théâtre, musique, l'adaptation des récits de la Colma de Varlam Shalamov.
Là, en fait, on va faire une brève lecture. On est en train de préparer. On ne sait pas encore seulement les récits qu'on a choisis parce que c'est tellement, ils sont tous tellement extraordinaires,
poignants. Oui, oui, oui.
Shalam Adamov écrit d'une façon, mais de toute façon, c'est de toute beauté son écriture. C'est aussi comme Robert Antelme d'ailleurs. Ce sont des écrivains qui finalement, dans ce qu'ils ont vécu de pire, sortent des, c'est des purs poètes, quoi. C'est des, alors ça, c'est un régal pour quelqu'un qui aime l'art, qui aime la scène et tout ça. C'est un régal, rien que ça. Donc, on est en train de préparer. Est-ce qu'il y aura le musicien? C'est un petit peu ces deux choses que vous soulevez, génocidé et les récits de la Colima. Eh bien, voilà, il va y avoir des petites surprises pour les spectateurs qui peut-être s'attendront à autre chose, mais qui ne s'inquiètent pas. Et comme je suis très honnête, je le dis à l'antenne, hein, j'aurais pourrais me taire, mais qui ne s'inquiètent pas, on ne va pas se moquer d'eux, hein, attention. Hein. Et ça fait partie des choses avec participation libre, donc les gens ne sont pas tenus à donner des sous. On est quand même très, très honnête et très respectueux, il ne faut pas s'en inquiéter. Mais c'est des choses qui nous passionnent. Ça, c'est passionnant, on ne sait pas assez de choses sur les goulags.
Oui.
Alors c'est petit à petit, cette année c'est ça. Parce que je pense renouveler... ce genre de festival, peut-être que ce n'est pas le bon terme, mais ce genre de rencontre toujours autour des mêmes thèmes.
Oui.
Puisque ce thème-là...
Ça vous porte, mais ça vous porte, vous, dans, vos, dans tout votre... comment dire... tout votre déroulé théâtral. Parce que moi, je me souviens, quand je vous avais rencontré au ring, quand vous aviez... présenter l'espèce humaine. Après, il y avait aussi des chercheurs qui étaient là. Enfin...
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ça me porte. C'est quelque chose qui me... On doit œuvrer, quoi.
Qui quotidien. Vous motive, qui vous...
Oui. Oui, parce que c'est une recherche de la justice. Et que les fautifs soient punis. Et qu'ils réparent. Et qu'on puisse enfin se réconcilier.
Oui.
Voilà.
Si les choses sont dites, c'est sûr que c'est plus facile de se... de tenter de se réconcilier que si elles sont étouffées. Ça, c'est
oui,
si elles sont enfouies.
Oui. Surtout aller à la justice.
Oui.
Réclamer justice.
Bien sûr.
Moi, quand je vois quand certains dictateurs ou certains génocidaires ont été punis, ça peut... Il faut punir. Voilà. Et on a fait... Alors, ça ne suffit pas. Ce n'est pas que suffisant. Mais ça part de là. C'est comme un viol pour une femme. S'il n'y a pas reconnaissance du violeur, si le violeur ne reconnaît pas qu'il l'a violée, si au contraire même il l'accuse, c'est un enfer tous les jours, éternellement, pour des générations et des générations. En revanche, s'il y a reconnaissance, on peut commencer alors après à demander réparation, et on peut peut-être un jour se pardonner et se réconcilier. Peut-être. Mais ça serait ça peut-être la chose magique qui pourrait nous arriver à l'humanité tout entière à l'heure actuelle. On ne peut pas effacer le passé.
Oui, donc voilà. Ça, oui. C'est...
Mais en revanche, peut-être qu'on peut arriver à reconnaître, faire des mea culpa, et bien aussi à l'instar de Edgar Morin, qui avait fait, qui a écrit, je ne me souviens plus le titre, mais c'est une espèce de mea culpa sur son...
Son appartenance au Parti communiste, c'est ça?
Voilà, c'est-à-dire sur... Comment il a pu défendre l'indéfendable? Mais il ne va pas se masquer, dire ah non, ben bon, on n'a pas plus. Non, il en a fait tout un livre.
Oui, oui.
Et comment son cheminement de la pensée
a évolué. Oui.
Et comment il s'est fait fourvoyer. Donc du coup, c'est un enseignant, il nous enseigne. Et à l'instar de Diogène Daridois, de Cognès Mayoukou, de tous les artistes qui sont là, il y a Sylvie Diclopomos, qui est une femme extraordinaire, qui est dramaturge, qui est directrice du festival Mancina sur scène au Congo-Brazzaville, et qui, elle, se met debout, indexe son État, alors que c'est un État dictatorial. Indexe son État, elle prend des risques, elle dit, c'est une immense dramaturge. Non, ce sont des gens qui n'ont pas peur et surtout qui sont là pour être, comment on pourrait dire, de l'éducation populaire avec l'art. C'est des vrais artistes. En fait, les artistes, ce sont des artistes qui, lorsque les choses tournent très mal, c'est eux qu'on assassine en premier, en fait. Donc, moi, je les appelle les artivistes, en fait. Nous sommes des artivistes. Voilà.
C'est joli
parce
comme terme.
Parce que ce sont les poètes, ce sont eux.
Qui voient, avant, qui voient, oui.
Qui ont une qui se feront tuer s'il y a un problème avant tout le monde. Avant la grande population désignée, si on peut imaginer un génocide, avant les génocides, d'abord on fait le ménage auprès des poètes et tout ça. On nettoie tout ça, tous ceux qui peuvent amener.
Tous ceux qui osent dire et tous ceux qui ont une forme de préscience aussi.
Voilà. Voilà.
J'aimerais que vous reveniez aussi, que vous évoquiez l'espèce humaine dans l'adaptation du livre de Robert Antelme, puisque là c'est toujours votre mise en scène qui est présentée, c'est ça ?
Absolument.
D'accord.
Aux côtés de Diogène Tarinois, d'ailleurs. Et oui, ça je ne le lâche pas ce morceau.
Oui, oui,
cette chose-là, peut-être qu'elle va m'accompagner jusqu'à ce que je très vieille. Parce qu'on l'enseigne aussi, on le joue aussi dans les écoles.
Oui.
Le message d'Antelme est tellement lucide, donne tellement une clairvoyance quant à l'humanisme et quant à ce que c'est que l'humanisme. On ne peut pas omettre qu'il n'y a une espèce humaine. On ne peut pas dire, ils ne sont pas comme nous. Ces gens, ils ne sont pas comme nous. On entend ça, Antelme le dit dans son livre. Oui, ce ne sont pas des gens comme nous. Et dès qu'on commence à prononcer cette phrase, on est dans un abîme. On ne s'en rend même pas compte. Mais si, c'est... qu'est-ce que ça veut dire ces gens? Ils ne sont pas comme nous. Ah oui, et puis après, bon, ils vont poser problème. Ah, puis après, on va les désigner. Ah, puis après, on va se dire, oh là là, ils vont nous tuer.
Oui, ce sont les boucs émissaires.
Avant qu'ils nous tuent, on va les tuer. Voilà. Donc, il faut faire très attention à nos mots, bien sûr. Mais particulièrement, parfois, il y a des phrases qui sont assassines.
Oui, bien sûr. Ah, ben oui, on peut tuer avec des mots, oui, c'est sûr. Oui. Ouais.
C'est pour ça que la concentration des médias est absolument importante. Hein. J'ai ouvert ce festival par ça. Ce n'est pas un hasard. C'est très inquiétant. Et à nous de reprendre possession des mots et des mots justes.
Des mots précis.
Voilà.
Il y a aussi quelque chose aussi parce que qui aussi que vous aviez mis en scène, si mes souvenirs sont bons, c'est la mise en procès du Code Noir aussi.
C'est ça, que je joue aux côtés de Sylvie Diclo-Pomor, dont je vais parler tout à l'heure, et je le reprends parce que ça c'est incessant. C'est pareil, ce sont des projets qui ne cessent. Ce sont des projets qui... alors, je mets en procès là, dans ce projet, d'une manière fictive et théâtrale, bien entendu.
Oui, je me souviens, vous l'aviez présenté à l'espace de la laïcité, entre autres.
Entre autres,
il y a quelques années.
Fois.
Oui.
Et on m'a invité plusieurs fois. Nous, on nous a invités, bien sûr. On est allé aussi en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique.
Oui, c'est important.
On l'a joué aussi au Congo. Enfin, c'est quelque chose qui bouge. Hein. J'aimerais vraiment faire une grande tournée en Afrique. En tout cas, c'est Sylvie Diclo-Pomor qui me dit ça. Il est à nous, ce spectacle. Donc, il faut qu'on le fasse là. Pourquoi ? Parce que je traite... je mets en procès les codes juridiques, le code noir qui a été écrit pendant la traite négrière en France. Il y a eu d'autres codes noirs qui ont été écrits au Portugal, en Espagne, etc. On n'est pas les seuls.
Oui, ben non, oui.
Ensuite, le code que l'on nomme le code de l'indigénat qui a été écrit, un code terriblement violent qui avait été écrit pendant le colonialisme, d'abord en Algérie et après qui s'était étendu sur toutes les colonies. Et ensuite... le code des étrangers actuel qui a été édité d'ailleurs au moment du gouvernement de Sarkozy. Parce qu'avant c'était des ordonnances, puis lui il a fait un code, un code juridique qui n'arrête pas de s'épaissir d'année en année, d'année en année, sur on légalise, enfin en tout cas l'étranger a une définition légale. Le noir avait, le nègre avait une définition légale et voilà, on définit légalement et on n'appartient pas à la société. On n'appartient pas, on n'est pas comme les autres. On n'est pas du tout comme les autres. Donc ces lois d'exception m'inquiètent aussi, et non pas pour dire que l'histoire est la même aujourd'hui, celle des étrangers ou des migrants, elle n'est pas du tout la même que celle des esclaves noirs à l'époque. Non, non, on ne peut pas comparer l'histoire. Non, on ne peut pas confondre.
Oui, non, bien sûr. Mais n'empêche qu'il faut pointer ce qui est, qui est toujours
une
dangereux.
Une logique intellectuelle qui nous pousse toujours à rejeter l'autre.
À rejeter l'autre, à l'accuser de toutes les fautes.
Sûr, parce que ce sont des travailleurs vraiment très malléables et pas chers, pour la plupart.
Oui, malheureusement, oui.
Malheureusement, bien qu'on dise qu'ils volent le pain et le travail. Non, quand on regarde vraiment clairement les choses... Ce n'est pas du tout ça.
Oui, c'est scandaleux que cela soit encore possible de nos jours, quoi, on va dire ça comme ça.
Voilà.
Il y a aussi, donc, parce qu'il y a beaucoup de théâtre, de danse, et puis toujours après avec des chercheurs et des conférences et des rencontres et des échanges. Et il y a aussi des expositions, et notamment il y a
dessins de originaux du...
Des gens qui ont été internés au camp du Vernet,
Voilà, le camp de concentration du Vernet. Moi, je suis comme eux, ils nomment ce camp de concentration. Ça, j'aime un petit peu, ça fait des polémiques inutiles, parce que c'est le terme qui s'employait à l'époque.
Oui.
C'est le terme qui s'emploie depuis très très longtemps sur les camps de concentration. Ça veut dire qu'on concentre.
Des gens.
Ça n'a rien à voir avec les camps de concentration nazis.
Oui.
C'était cette époque, il y a eu... pas que cette époque, dans le camp du Vernet. Et donc, oui, il vient exposer ses dessins pendant 5 jours, mais surtout...
C'est Raymond Kubel, c'est ça, qui est président de l'amicale du camp de concentration du Vernet.
Voilà, et qui font un travail remarquable. Je trouve un travail de mémoire remarquable. Et il va nous faire une petite visite pour le premier jour, le jeudi soir. Il va nous faire une visite de son exposition avec quelques lectures. Et ensuite, ils discuteront avec le public. Il discutera aux côtés de Henri Farny, qui lui est président de l'amicale des guérilleros espagnols. Nous sommes quand même ici, dans la région, un fief républicain espagnol, un fief, et qui crée encore polémique, et qui crée encore débat, et qui crée encore dissension. Mais l'histoire reste vivace, et il faut absolument en parler.
Oui, il faut le faire savoir, il faut le...
Oui, complètement. Il faut le faire savoir. Et d'ailleurs, dans ce camp du Vernet, il y a eu les républicains espagnols.
Oui, bien sûr.
À l'époque, on les appelait les étrangers indésirables. Les étrangers indésirables, ça était aussi les harkis qui se sont battus pour la France.
Pour la France, oui.
Ah, donc, ils étaient désirables au moment où ils se battaient.
Quand ils étaient utiles pour une certaine, entre guillemets.
Ensuite, ils sont indésirables, alors on les campe. Enfin, voilà comment on les a accueillis. Donc, tout ça, ça crée des rancœurs, et des couches, et des couches, et peut-être des haines. Il faut désamorcer. C'est en reconnaissant ces choses-là que ces haines vont disparaître. Je l'espère.
En l'évoquant, oui. Il y a aussi une installation de Nicole Saunier, Saunier. Et ça concerne les crimes contre l'humanité, c'est bien ça, hein?
En tout cas, elle a répondu à une commande.
Oui, et elle met... Bon,
et elle met
avec
sa façon
d'artiste.
Mais elle a imaginé, elle est partie de la première... Sa première pulsion artistique a été de se dire, de compatir avec ceux qui, tout d'un coup, doivent sortir de chez eux, partir, fuir une situation atroce et dramatique. Fuir. Donc, on a des témoignages partout. Il y a des gens qui racontent une guerre civile tout d'un coup qui éclate. Les gens se retrouvent en slip dehors avec un papier, la pièce d'identité, quand ils sont arrivés à l'attraper, et ils fuient. Donc, en France, il y a eu des périodes où on a vécu ça. Dans d'autres pays, ça se passe au quotidien, partout dans le monde. Donc, elle a imaginé ça. Et après, quand on fuit, on fuit le danger. Alors, on va dans l'ailleurs. Et l'ailleurs, on les nomme les migrants. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Et qu'est-ce qu'il reste? Et qu'est-ce qu'ils amènent? Et qu'est-ce qui reste là-bas, là où ils ont laissé? Voilà, c'est un petit peu cet imaginaire. Et c'est, à mon sens, une très grande... artiste très sensible, et on peut dire que c'est une très grande poète. Dans son art est toujours dans la poésie. C'est une grande poète, en fait, qui fait passer ça dans l'art plastique. Et la peinture aussi. Voilà. Donc, ça vraiment, même, voilà quoi, si vous n'avez même pas le temps de voir un spectacle, vous pouvez quand même vous promener un petit peu dans la salle et voir cette exposition magnifique. Elle va rester tout le long.
Tout le long du.
Tout le long du festival, à partir du mercredi 12. Mais le mercredi 12, nous serons au cinéma. Je ne pense pas que la mairie s'ouvrira, qu'on ouvrira la salle des fêtes de la mairie du Mazazi. Mais à partir du jeudi, oui, Tout se passera là. Il y aura donc les dessins qui seront exposés aussi, hein, du camp de concentration de Vernet, qui seront exposés jusqu'au dernier jour.
D'accord.
Voilà, les gens pourront en profiter. Hein, parce que ça se regarde, un dessin, puis ça se re-regarde.
Oui, il faut prendre le temps. Oui, oui, oui.
On ne peut pas avoir comme ça du premier coup.
Non, enfin, non, bon. Il faut se laisser imprégner, entre guillemets. D'accord. Je pense que nous avons fait à peu près le tour. Vous me dites si j'ai oublié quelque chose ou...
Oui, moi je voudrais dire que ça paraît chargé, ça paraît beaucoup de choses, mais en fait il y a un
jour.
Conducteur, il y a une réelle dramaturgie, et je sais que nous aurons le temps, que finalement nous allons consommer un temps qu'on n'a pas l'habitude de le consommer de cette façon, et on va se rendre compte qu'en fait on a le temps de se rencontrer. On va avoir le temps d'échanger. Et même peut-être qu'il y aura des suites à ça. Un artiste qui rencontre un spectateur, tiens, ça lui donne envie de faire quelque chose là ou là ou là. Il se peut qu'il y ait des rencontres concrètes. Mais je sais qu'on aura le temps de se rencontrer.
D'échanger,
Oui, d'échanger. Et de... Parce que ça paraît très chargé. On se dit, oh là 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 là, j'ai pas l'impression. Je l'ai conçu, alors peut-être que je me trompe, ben voilà, ça fera une expérience, mais honnêtement, je me fais confiance, et je pense que tout est fait pour que, en effet, les choses que l'on aborde, on va comprendre que tout ça se tricote et que c'est d'une même logique, au fond, on traite la même chose, au fond, avec une diversité de couleurs, on va dire, ou une diversité en tout cas, mais ça tourne toujours autour d'eux. L'espèce humaine. Et l'espèce humaine, le monde ne lui appartient pas. Elle appartient au monde. Et c'est pour ça que je finis sur la question un génocide, un écocide. Un génocide. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de je trouve d'atroce ce qu'on a fait à la nature. Depuis des millénaires, d'ailleurs. Hein. On n'est pas que notre génération, enfin, ou les dernières centaines d'années. Hein. Donc, je trouve que cette domination de la nature est tout à fait inconcevable avec le fait que l'humain est citoyen du monde. L'humain appartient au monde, c'est pas l'inverse. Donc, ok, ça peut paraître un peu comme ça, un peu sentimentaliste ce que je dis. Non.
Non, mais c'est toujours la même chose. Enfin, c'est un manque de respect de l'autre et un manque de respect de l'environnement. Enfin, c'est toujours la même chose.
Complètement.
C'est agir en égoïste, quoi, en gros.
Enfin... C'est-à-dire que les choses que l'on fait, ben, ça nous revient en retour. La nature, si on l'étouffe, ou l'animal sauvage, si on lui enlève tout son contexte,
son biotope,
de vie, il va nous filer ses virus, bien sûr.
Ah ben oui.
Il ne faut pas s'étonner.
Donc
c'est tout ça, à un moment donné, réfléchissons sur ce que l'on est en train de faire. C'est pour ça que je pose la question de Anna Arendt, hein, cette grande philosophe. Et qui disait, que sommes-nous en train de faire ? On devrait, je me dis, moi, idéalement, chaque soir, avant de se mettre au lit, on se dit, tiens, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je suis réellement en train de fabriquer ?
Qu'est-ce que j'ai fait de positif ou de négatif, si vous voulez ?
Absolument, pour pouvoir après rectifier, ou confirmer.
Ou évoluer, ou faire...
Voilà, s'observer.
Changer d'optique.
Là, tu es en train d'acheter des aliments... Et tu as la poubelle remplie alors que tu as mangé deux bouchées. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Des déchets à outrance ? Du plastique à outrance ? À chaque instant, on se dit, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Je pense que c'est une question. Qu'est-ce que l'humanité est en train de faire ? Je pense que c'est une question qui ne cesse jamais, qui doit toujours sans cesse être répétée.
Mais ça suppose, comme vous disiez tout à l'heure, de prendre du temps, d'avoir du temps de se poser, de réfléchir et de prendre ce temps-là, de ne pas courir toujours après.
Ah, mais c'est... qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Ah, ben, je suis en train de courir partout. Voilà. Au moins l'observer et se dire, mais ça n'a plus de sens. En fait, ça n'a pas de sens. C'est... Voilà. En tout cas... On fait du mieux qu'on peut tous. C'est déjà beaucoup. Et on va s'efforcer à se questionner. Je n'ai aucune réponse. Je ne tiens pas de solution. Mais le questionnement...
Vous soulevez des questions.
Ouais, c'est très important.
Et vous proposez le débat. On va dire ça.
Oui, il faut débattre. Quitte à ce qu'on s'engueule. Hein. Ah oui. C'est pas un problème, ça. Hein? Parce qu'on est on est ensemble, justement. On met des choses... s'engueuler, on va certainement pas s'engueuler, mais on va argumenter. Il y aura certainement des dissensions d'opinion, peu importe. On est ensemble, c'est pas un problème, ça. On peut quand même ne pas avoir les mêmes opinions que l'autre, mais après on se fortifie, on fortifie nos arguments. Hein, c'est ça qui est important, fortifier nos arguments. Et des fois, on se dit, mes arguments sont nuls. Mais nuls, 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 en fait, voilà. Ou alors, on se dit, waouh, je pensais qu'ils étaient ridicules, mes arguments. Mais en fait, ouais, ils sont béton, mes arguments. Et voilà. C'est aussi bête que ça. C'est très simple, en fait. Voilà. Là, très simple, mais de longue haleine. Et ça demande quand même des efforts.
Je vais vous demander peut-être de donner les coordonnées pour les gens qui voudraient aller vous rencontrer, participer à toutes ces journées. Est-ce qu'il y a des réservations ou comment
ça se
passe ?
Alors, moi, je préférerais qu'on fasse des réservations, qu'on réserve.
C'est plus simple, oui, pour
vous. C'est plus aisé pour moi, mais c'est sur mon téléphone. C'est le 06 44 74 46
D'accord.
32. Il y a aussi une adresse mail. Rencontre théâtrale 09, tout attaché, et rencontre théâtrale au pluriel, rencontre théâtrale 09, @gmail.com. C'est tout aussi bien par mail aussi.
Oui.
Hein. Et aussi, sachez que ceux qui ont eu des brochures, flyers en papier, en main, malheureusement, je les ai imprimés trop tôt et je n'ai pas bien relu. Voilà, et je n'ai pas marqué les tarifs réduits.
Oui.
Sachez que pour un tarif réduit, un pass, c'est 30 euros.
D'accord.
Pour les 5 jours.
D'accord.
Ensuite, par week-end, c'est 10 euros. Je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure. Le tarif réduit, 18 euros la journée du week-end, tarif plein. Et sinon, c'est 10 euros le tarif réduit. On peut arriver le matin et repartir le soir.
D'accord.
Voilà. Il y a aussi la slameuse Shanby, hein, qu'on a oubliée. Il y a du slam, il y a un petit peu de musique quand même. Ouais, bon, on n'est pas non plus qu'à parler et à écouter, à regarder et à écouter. On va danser aussi, j'espère. Donc, il y a un groupe qui dit faire du rock algérien, mais c'est aussi tous les classiques de musique algérienne. Enfin, on va se faire du bien à danser. Puis, il y a la slameuse Shanby qui se fera entendre juste avant ce concert. Voilà.
C'était une dame qui était gymnaste avant et qui a eu un accident,
alors,
c'est ça ?
Alors oui, voilà, elle était gymnaste de très haut niveau, et puis elle a un accident de la vie, hein, je n'ai pas raconté sa vie privée, mais en tout cas de santé, qui a fait qu'elle a changé complètement d'optique, elle a abandonné ses rêves fous, ses vrais rêves, et pour en trouver d'autres formidables aussi, qui l'ont boosté, c'est le slam. Donc du coup, elle dit qu'elle fait de la gymnastique avec
les mots.
Voilà, hein, et qu'elle est sur le ring en continu. C'est aussi une boxeuse avec ses mots. Et c'est quelqu'un, c'est pareil, une pionnière. Au tout début du slam, certaines ne savaient même pas ce que c'était le mot slam. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle est vieille, hein, ça veut dire qu'elle était là au rendez-vous au moment où il faut. Voilà, donc encore une fois, elle rejoint cet esprit d'ensemble du festival où nous sommes des pionniers, et je n'ai pas honte de le dire moi-même aussi. Je suis quelqu'un qui a toujours devancé certaines thématiques dont il était très très pénible de parler. Par exemple, j'avais monté un spectacle autour des femmes, mais il y a 20 ans, je m'étais fait, mais vraiment, violenter de tous les côtés, comme quoi il n'y avait aucun problème pour les femmes, que tout allait bien maintenant. Regardez à l'époque de MeToo.
Oui, oui.
Hein? Donc, il ne faut pas avoir peur de ses opinions, quand on sait, quand on a bien analysé, quand
bien
on a
sûr,
fait des enquêtes.
En argumentant, oui, en montrant,
voilà, c'est encore
en démontrant.
Une fois cet argument, et là, on sait, on est indétrônable. Là, on sait, on a vu, on a revu, on a étudié. Parce que c'est une responsabilité, hein, d'être artiste. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Hein. Donc, moi, j'ai une grande responsabilité. Tant que je ne tiens pas mon sujet, je ne veux pas, je n'ose pas le monter parce que je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, mais quand on est sûr, il faut y aller.
Donc ça sera au Mas d'Asile du 12 au 16 octobre.
Et il y aura une restauration sur place, hein, et un petit bar. Hein. Et d'ailleurs, il y aura certainement le dimanche, peut-être déjà dès le samedi, un bon repas façon congolaise. Et voilà, hein, y a Yvon qui va nous préparer un grand repas avec du riz, piment, poulet, enfin bon. Je ne sais pas comment il le nomme, mais avec de la pâte d'arachide, enfin vraiment, là, il va faire ça bien. Mais après, il y a des petites restaurations pour tous les goûts. Voilà.
Et j'imagine, puisque vous dites qu'il y a des petites restaurations, puisque dont vous parliez de la terre, de l'environnement, qu'il y a aussi tout un travail fait quant au... Comment dire, au fait qu'il y ait le moins de déchets possible, ou faire attention.
Oui, oui. Alors, ça aussi, c'est compliqué. Parce que, par exemple, il me reste depuis très longtemps des verres en plastique. Alors, plutôt que de les jeter, de ne pas les utiliser, d'acheter d'autres ou de mettre des verres, ils vont être utilisés. Mais en fait, on a fait beaucoup de plats. Tous les plats qui sont faits, tout ça, c'est avec les produits locaux.
Locaux, oui.
Et alors, de nombreux... Comme on n'est pas encore fortuné dans l'avenir, on collaborera peut-être s'il y a d'autres éditions avec les maraîchers du coin, etc. On ne l'a pas fait parce que chacun, on a sorti notre petit panier de notre jardin.
D'accord.
Et on a dit, allez, on y va, on fait ça. Au moins, ça sera
local.
Bio, local. Au moins, ça sera de qualité alimentaire. Et donc, on a fait cet effort-là, bien entendu, un petit peu comme ça se passe partout en Ariège. Hein. Mmh. On va dire que quand même en Ariège, à ce niveau-là, c'est quand même un département, on va dire, oui, d'avant-garde aussi, hein, pionnier là-dedans. Hein. Bon, c'est pas le seul, mais quand même, bon, ils ont toujours été très attentifs à le bio, le local, etc. Donc, c'est naturel, voilà.
D'accord.
C'est naturel. Bon, ben, je suis très ravie que vous m'ayez interrogée. Hein.
Merci à vous de nous avoir accordé tout ce temps. Et puis, à plus tard. Merci beaucoup.
Voilà, à plus tard. Et n'hésitez pas à venir, nombreuses et nombreux.
Au
et surtout, parlez-en. Aussi, sur le site internet, je me permets de dire, il y a une cagnotte. Honnêtement, vraiment, on a besoin de soutien.
D'accord.
Donc, les gens, c'est une cagnotte LOASO. Si les gens qui trouvent important ce genre d'initiative et qui peuvent donner 5 euros, 10 euros, bah, qu'ils n'hésitent pas. Mmh. Voilà. Hein, voilà.
Et parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes aidé par...
Oui, bien sûr. Donc, il y a le département de l'Ariège, il y a certainement la Comcom Ariège, il y a des dons. Mmh. Alors ça c'est un réseau qui vraiment est très engagé, voilà, je ne veux pas les nommer. Il y a aussi certainement Occitanie.
La région, vous voulez
la
dire.
La région Occitanie. En tout cas, l'an dernier, ils nous ont aidés. Donc, cette année, j'ai pas encore la réponse, mais j'imagine qu'ils vont... Ils nous aident, oui. Occitanie est là avec nous. Mm-hmm. Voilà, on avance petit à petit. Hein. On n'a pas des super sponsors et tout ça. C'est normal. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de faire une cagnotte.
D'accord.
Voilà. On espère que dans l'avenir, on pourra mieux s'organiser pour être un petit peu plus souple. Mais là, c'est compliqué. Par exemple, on a eu un souci de billets d'avion et de visa pour Sylvie Diclopomos. Ouais. Puis finalement, ils lui ont accordé le visa. Mais mince, il a fallu changer un billet. Ça, c'est des frais inattendus encore à cause des politiques voilà, qui nous échappent, qui s'insinuent même jusqu'à dans notre petit porte-monnaie, dans notre petite chambrée. Donc, bon, il a fallu résoudre ça. Et comment on fait? Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Bon, pour tout le monde. Je sais que ça, c'est vraiment pas... Mais par contre, j'ai essayé de privilégier des tarifs bas dans les tarifs réduits. Et aussi, je veux le dire à l'antenne, si des gens ont envie de négocier avec moi parce qu'ils n'ont pas un sou et que ça les intéresse énormément, alors vraiment, faut pas hésiter, sans aucun tabou. Et j'avais oublié de rajouter aussi que les migrants, les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les associations de migrants, les missions locales, nous l'oublions souvent, j'en ai invité plusieurs, c'est gratuit pour eux. Voilà.
D'accord. Ah oui, c'est important de le dire,
voilà,
effectivement.
C'est gratuit. Hein, c'est tout. C'est parce que, par contre, ceux qui sont dans des soucis de paupérisation, parce que tout le monde en subit ça à l'heure actuelle, mais qui n'ont pas ces difficultés de papier, etc., m'appellent, on négocie. Hein, on négocie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que je sais ce que c'est que d'être frustré de ne pas pouvoir aller voir quelqu'un parce qu'on n'a même pas 4 euros dans la poche, ni 3. Bon, et pourtant, on a envie de participer à quelque chose. Donc, je n'exclus personne là-dedans. Voilà.
D'accord, merci pour toutes ces précisions. Au revoir, Maïlis. Merci.
Au revoir, et mille merci.